là où deux ou trois sont assemblés. Il est au milieu de nous. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta présence. Et ce matin, je veux vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, qui concerne beaucoup de monde, qui est le sujet de la joie. Le sujet de la joie. Est-ce que c'est un sujet dans lequel vous avez envie d'entrer ce matin? Parce que oui, il y a des tribulations, oui, il y a des confusions, oui, il y a un monde qui est perdu, mais il y a la joie en Christ. Il nous a laissé ça. Il nous l'a laissé, et c'est une vraie arme. C'est une vraie arme spirituelle. Et c'est là-dessus que j'ai vraiment à cœur de partager aujourd'hui. Je ne l'ai pas sorti ce matin, hein. C'est quelque chose qui me travaille depuis quelques temps déjà. Et ce n'est pas un sujet anodin dans la parole non plus. Ce n'est pas un petit sujet, la joie. J'ai cherché un petit peu. Le mot joie, il est cité 145 fois dans la Bible. C'est pas rien. Mais si on rajoute les termes apparentés, joyeux, se réjouir, allégresse, c'est plus de 400 fois. Donc c'est pas rien, c'est un vrai sujet et c'est une aspiration profonde. C'est vraiment une aspiration qui est universelle, alors pas simplement dans l'Église, mais l'aspirer à la joie, je crois que c'est ce à quoi les gens aspirent le plus dans ce monde. Alors dans le monde, on ne dit pas forcément joie, on parle de bonheur, il y a plein de choses qui sont écrites, hein, qui sont dites, qui sont parlées. Je cherche le bonheur, il y a des tas de bouquins dans le monde qui sont écrits, qui sont très très lus, hein. C'est des best-sellers bien souvent. La quête du bonheur, comment j'y arrive, etc. etc. Donc c'est pas un petit sujet, mais il y a une différence. Et quand on regarde dans la Bible, alors le mot bonheur n'apparaît pas dans la Bible, sauf si je fais erreur, je ne l'ai jamais vu, mais il y a le mot heureux, notamment dans Matthieu 5, hein, dans les Béatitudes, le mot heureux qu'on pourrait peut-être transférer, mais ça a un sens différent. Donc j'ai cherché la joie, en fait, dans le grec, c'est le mot chara, C-H-A-R-A, chara. En fait, ça vient de. C'est la même racine que charisme. Vous voyez, c'est la même chose. Donc c'est. La joie, c'est quelque chose de très profond. C'est une vraie émotion profonde intérieure qui est produite par Dieu. C'est pas quelque chose d'éphémère ou quelque chose de très de pas profond. C'est quelque chose de très profond et qui vient donc de charisma, qui est le don, la grâce. Donc c'est une grâce. La joie, c'est pas quelque chose qu'on obtient par nos mérites, parce qu'on a fait quelque chose pour être heureux. C'est quelque chose qui vient vraiment du cœur de Dieu. C'est quelque chose de très spirituel. Le bonheur ou heureux, c'est plutôt le mot makarios en grec. Et ça, il dit que c'est, dans le Strong, la traduction, c'est une bénédiction. Voilà, c'est quelque chose peut-être de plus éphémère. C'est bon, hein, d'être béni, c'est bon d'être sur le bon chemin, c'est bon d'être aligné avec Dieu. Mais c'est simplement une condition de vie. C'est pas la joie. La joie, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profonde. Parce que c'est un fruit de l'esprit aussi. Dans Galates 5, 22, hein, vous avez toute la liste des fruits de l'esprit. Vous avez l'amour, vous avez la joie tout de suite après. Donc c'est pas rien. La joie, c'est quelque chose de profondément spirituel. Alors, dans ce monde, il y a, oui, une recherche. Alors les gens vont chercher la joie ou le bonheur dans des tas de choses, dans la réussite, dans l'argent, dans les voyages, dans les loisirs, dans des relations. Alors, il y a énormément de quêtes, mais malgré tout, ça reste fragile, ça reste éphémère, puis la joie, elle est souvent absente. Donc on va faire une soirée, on va être dans la joie, ça va être quelque chose de bon, et puis le lendemain matin, le soufflé, il est retombé, et puis il ne se passe pas grand-chose. Mais la parole de Dieu, elle nous dit quelque chose qui est puissant. Et ce sera mon premier verset ce matin. Romains 14, au verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc ça, c'est les caractéristiques du royaume de Dieu. C'est pas rien. La joie, ce n'est pas un luxe spirituel, ce n'est pas, une option. Ce n'est pas quand vous achetez une voiture, par exemple, vous avez tous les équipements de série et puis vous avez les options que vous pouvez comme ça rajouter. Ben, la joie, c'est de série dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas une option, c'est quelque chose qu'on doit vivre, mais qu'on ne doit pas vivre simplement comme ça par épisode, qu'on doit vivre continuellement. Parce que là où le royaume de Dieu se manifeste, ben, la joie, elle est présente. Et elle doit être présente. Alors, je vais parler du monde, mais on peut parler de l'Église aussi. Parce que c'est ça, finalement, ce qui me travaille. C'est pourquoi dans le monde, il y a peu de joie, mais pourquoi dans nos églises aussi, on ne voit pas finalement tant de joie que ça. Pourquoi tant de croyants vivent sans joie? C'est une vraie question, ça. C'est une vraie question. Et parfois, on voit même plus de joie chez ceux qui ne connaissent pas Christ que dans nos assemblées. Alors cette question, j'ai envie qu'on la parcourt ensemble, si vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Hein. Et on va aller dans Jean 16. En fait, il y a un verset clé. D'ailleurs, le titre de mon message, c'est « Une joie que nul ne peut ôter ». D'accord ? Et on va donc aller dans Jean 16. Je vais vous donner un petit bout de contexte quand même. Jean 16, vous savez, ça fait partie de ces passages où Jésus, en fait, il fait des discours d'adieu à ses disciples. Et donc Jésus, il est avec ses disciples la veille de sa crucifixion. Ils sont après le dernier repas. Et Jésus commence à les préparer, commence à leur expliquer doucement ce qui va arriver. Il les prépare à vivre les temps qui viennent sans sa présence physique, sans sa présence visible. Et Jésus, donc, il va l'avertir, hein, il va avertir ses disciples au début du chapitre 16. Il va leur dire qu'ils vont être exclus des synagogues, ils vont être rejetés, qu'ils vont être persécutés au nom de Dieu. Il va annoncer son départ. Il va dire « Je m'en vais vers celui qui m'a envoyé ». Il va leur promettre le Saint-Esprit, le paraclète. Il va les convaincre que le Saint-Esprit sera une bénédiction pour eux, qu'il va les guider, et que son départ, finalement, ce n'est pas une perte, mais que c'est une bénédiction. Et puis, il y a un passage, à partir du verset 16, il y a des passages qui vont parler de thématique très spécifique autour de la tristesse et de la joie, justement. Et on va lire ensemble ce que Jésus va dire à ses disciples avant d'aller à la croix sur ces thématiques-là. Alors j'aimerais qu'on affiche d'abord Jean 16, verset 20. C'est Jésus qui parle et qui dit « en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. » Au verset suivant, une autre image. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a eue de ce qu'un homme est né dans le monde. Au verset 22, et ça sera le verset pivot sur lequel on va partager. Verset 22, « Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera, et nul ne vous ôtera votre joie, » dit une autre traduction. « Nul ne vous ôtera votre joie. » Et on va sauter le verset 23, verset 24 nous dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite ou complète. » Ces paroles de Jésus, elles sont puissantes. Corinne, si tu peux remettre le verset 22, s'il te plaît. Elles sont puissantes parce qu'il y a trois vérités fondamentales dans ce verset. Il y a la première partie, il y a la réalité de la tristesse humaine. Jésus, il ne va pas la nier. Et il ne la nie jamais. La Bible ne nie jamais qu'il y a des épreuves, ne nie jamais qu'il y a des moments où on peut être dans la difficulté, dans les épreuves, dans la tristesse. Mais après, il vient décrire aussi la source véritable qui nous sort de cette tristesse et qui est la joie. Et on va creuser un petit peu ça. C'est le, je ne sais pas si vous le captez, si c'est subtil. C'est dans le « Je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Je vous reverrai. » Il y a une notion de revoir, de rencontrer, d'être avec Jésus. C'est ça la source de la joie. Et puis il y a une promesse aussi dans ce passage, c'est que nul ne pourra nous l'ôter. Personne ne nous l'enlèvera, cette joie. C'est la promesse d'une joie qui est indestructible, en fait. Donc la joie, c'est, on le verra, c'est un fruit de l'esprit, c'est vrai, mais c'est aussi une arme spirituelle, et je pense qu'on la néglige beaucoup trop souvent. On néglige beaucoup trop souvent d'être joyeux. Je ne parle pas d'être joyeux, parce que je préparais ce message, et puis je lisais, j'écoutais des témoignages sur la joie, etc., et certains disaient, mais je ne peux pas être joyeux, sinon je vais être hypocrite. Moi, je veux bien être joyeux, je veux bien rigoler, je veux bien rire, je veux bien avoir une bonne attitude, mais ce n'est pas le fond de mon cœur, et je ne veux pas être hypocrite. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pas simplement la joie, ce n'est pas une attitude physique du moment, c'est une attitude de cœur, c'est une attitude spirituelle. Et c'est une arme. C'est une arme qu'on peut utiliser contre l'ennemi, contre ses traits enflammés. Alors, le premier point sur la tristesse, Jésus, il commence à dire à ses disciples, vous êtes maintenant dans la tristesse. Donc, Jésus, il annonce subtilement qu'il va être arrêté, qu'il va souffrir, qu'il va être crucifié, qu'il va être jugé. Et donc, les disciples, ils commencent à pressentir ça. Bien sûr qu'ils commencent à le pressentir. Leur cœur, il est brisé, il y a une espérance qui commence à s'effondrer. Ce Jésus avec qui ils ont vécu pendant 3 ans va sortir de leur vie, physiquement. Donc il y a une vraie tristesse, et c'est une réalité. La tristesse, elle est présente même dans la vie des disciples. Elle est présente même dans la vie de Jésus, comme elle est présente dans nos vies. Nous aussi, on connaît ces réalités, les pertes, les échecs, la maladie, les épreuves de la vie. Et puis même en tant que croyant, on traverse parfois des temps et des épreuves où la tristesse, finalement, elle domine. Elle domine. Elle n'est pas remplacée par une joie intérieure qui vient. La Bible, elle nie pas cette réalité. Même Jésus, il va expérimenter. Souvenez-vous, à Gethsémané. C'est des mots très forts. Moi, ces mots, ils me touchent. Dans Matthieu 26, 37, 38, Jésus prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Mon âme est triste jusqu'à la mort. Alors ça touche, ça chamboule. Mais moi, je vois une fin. Mon âme est triste jusqu'à la mort. C'est-à-dire que la mort, en fait, c'est pas la fin. La tristesse, il y a un point final à la mort. Mais la mort, c'est pas le point final. Parce que derrière, c'est pas la fin de l'histoire, la mort. C'est la résurrection. Le dénouement, il va être glorieux. La mort, elle n'a pas eu de prise sur Jésus. Et il est ressuscité. Donc je peux être triste jusqu'au dénouement, mais le dénouement, c'est jamais la fin. Et il y a une réalité, c'est que Christ, il est vivant maintenant. Maintenant. La mort, ce n'est pas la fin de l'histoire. Jésus va illustrer aussi cette tristesse en donnant une autre image. C'était dans le verset 21 de Jean 16. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie. Alors moi, je ne peux pas témoigner, mais je pense que les dames de l'Assemblée, celles en tout cas qui ont eu des enfants, peuvent le faire. Mais là aussi, on dit que la tristesse, c'est comme une douleur passagère finalement. C'est une contraction, mais qui va annoncer une naissance. La douleur, ce n'est pas la fin. Comme la mort n'est pas la fin. Elle prépare à quelque chose de nouveau, elle prépare à la vie. Alors, frères et sœurs, si notre tristesse, si nos larmes, si nos combats sont présents, eh bien, ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Elles annoncent une transformation. Une transformation par Christ et en Christ. Parce que il y a une source véritable de la joie. Et je veux bien que tu remettes le verset 22. On va faire un petit peu de ping-pong. Mais je vous reverrai. En fait, il y a cette promesse de Jésus. Je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Donc la source de la joie, ben, ce n'est pas une émotion passagère. Ce n'est pas quelque chose qui vient, qui passe. Mais c'est une rencontre. Je vous reverrai. C'est une rencontre avec le Christ ressuscité. C'est ça qui va procurer de la joie. C'est ça qui va être la source de notre joie. Cette rencontre avec le Christ ressuscité. Parce qu'il y a eu la croix, oui, et derrière, il y a eu la résurrection. Il y a eu la résurrection. Le vendredi saint, quand Jésus a été crucifié, j'imagine les disciples, ils ont dû être écrasés par la douleur. Écrasés. Mais le troisième jour, le dimanche de Pâques, Jésus, il était sorti du tombeau. Et après, ils l'ont vu. Et quand ils l'ont vu vivant, quelle joie! Mais quelle joie! Jean 20, au verset 20, nous dit, après avoir dit cela, il leur montra ses mains et ses côtés, et son côté, et les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Remplis de joie. Donc notre joie, on doit s'en inspirer de ça. Notre joie, la joie chrétienne, elle ne doit pas reposer sur les circonstances, elle ne doit pas reposer sur ce qu'on vit dans ce temps présent. Mais c'est sur cette œuvre, l'œuvre de la croix, où nos péchés ont été pardonnés, où tout a été réglé. Ésaïe 53,5 nous dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ça doit être le verset qui doit nous faire exulter de joie, parce qu'il a tout fait, tout accompli à la croix. Et puis à la résurrection, ben c'est une nouvelle vie. C'est la nouvelle vie qui nous est donnée et qui nous amène dans cette profondeur et dans cette joie parfaite. Parce qu'au verset 24 de Jean 16, Jésus termine en disant « Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète ou parfaite ». Donc vous voyez, la joie, ce n'est pas simplement un moment comme ça, un soulagement, quelque chose de passager, d'éphémère, c'est une plénitude. C'est une plénitude qui doit habiter, qui doit remplir nos cœurs. Parce qu'en Christ, eh ben, la joie, elle atteint sa perfection. Et parce que Jésus nous invite à demander. Peut-être qu'on ne demande pas assez, en fait, si on n'est pas assez joyeux. Là, il nous dit « Demandez ». Demandez en mon nom et vous recevrez. Il n'y a même pas de conditionnel. Afin que votre joie soit complète. Donc Jésus, il nous invite à demander, il nous invite à prier, il nous invite à passer du temps avec lui. Et si on est dans cette disposition de cœur, le Seigneur va donner. Et il va se donner. Parce que sa parole, elle ne ment pas. Il dit, vous recevrez. Vous recevrez. Cette parole, moi je le crois en tout cas, elle est certaine et elle est véritable. Et elle a un but, c'est que votre joie soit parfaite et qu'elle soit complète. Alors attendons pas. Demandons-lui. Demandons-lui. Seigneur, je te demande la joie parfaite. Je te demande ta joie parfaite. Ta parole dit que si je te demande, je recevrai. Alors Seigneur, je te demande une fraîcheur nouvelle. Je te demande une joie nouvelle. Je te demande une onction fraîche pour que ma joie soit parfaite en toi. Je te le demande, Seigneur, et je crois en ta parole. Et je crois, Seigneur, que je vais recevoir. Je crois que je vais recevoir. Et on reçoit. Je voulais vous témoigner une petite anecdote, mais qui est en même temps un témoignage, où j'ai pu expérimenter la joie du Seigneur, parce que j'étais, mais une vraie joie, une joie qui était visible, qui était... Oui, qui était visible, parce que j'avais demandé et que j'ai reçu. En fait, j'étais, il y a 3 ans, on était en vacances au Portugal, on finissait nos vacances, il restait 3 jours avant de rentrer. Et comme je suis un gars un peu jeune, je suis allé faire des trucs de jeune. De la bouée tractée, vous voyez, sur un lac, des trucs à pleine vitesse, complètement fous. Et à un moment donné, mauvaise chute, la bouée, elle monte comme ça. Je ne sais pas si vous imaginez la chose. Moi, je m'agrippe tant bien que mal pour ne pas tomber. Et en fait, quand je retombe, mon bras, il fait torsion et fracture. Alors, je l'ai su après, évidemment, parce que départ aux urgences, etc. Première radio, donc confirmation de la fracture. Donc imaginez, je dois rentrer dans 2 jours, il y a le boulot qui m'attend, j'ai Sonia, les enfants et un bout de la famille dans l'appartement qu'on avait loué, qu'on devait rendre le lendemain. Encore s'il devait me mettre un plâtre, ça irait. En fait, le médecin, il voit la radio, il dit, monsieur, il y a un petit problème, votre fracture, elle est quand même pas bien jolie et il va falloir opérer en urgence. Non. Vous n'allez pas m'opérer en urgence, en fait, ça n'existe pas, ça, c'est pas possible. D'abord, j'ai pas dit, le système de santé au Portugal, j'ai pas une confiance extraordinaire, donc il faut pas m'ouvrir, en fait. Et puis non, y a la famille, il faut qu'on rentre, en fait, ça chamboule tous les plans. Il y a quelque chose qui monte et qui est pas cohérent. Parce que là, il y a une espèce de crainte, de peur qui vient. C'est une tristesse qui commence à venir, parce que je sens que je suis en train de, à travers cet accident, de produire des conséquences qui ne sont pas cool pour moi, mais pour le reste de la famille. Alors, non, en fait, vous n'allez pas m'opérer. Mais si, monsieur, on va être obligé. Enfin, votre fracture, elle est vraiment pas belle. Et puis là, je vois des infirmières qui arrivent avec des chariots, des trucs, des poches, des machins pour commencer à... Non, je veux pas être opéré. Vraiment, ça va pas être possible. Vous me mettez un plâtre et puis je rentre et en France et puis je me ferai observer là-bas. Et puis en France, ils feront ce qu'il y a à faire. Donc j'insiste. Il veut pas. Bon, mais c'est un médecin, donc il prend pas de risque. Hein. Et puis à force d'insister... Il est OK, il dit OK, je vous mets un plâtre, mais par contre, il faut qu'on fasse un scanner derrière pour reconfirmer, puis vous me signez une décharge, et puis voilà, je ne prends pas de risque. Alors, il y a un temps qui se passe, et puis c'est évidemment un temps qu'on met à profit pour prier, communiquer avec Sonia par SMS, qui est à la maison, c'est mon beau-frère qui m'a amené aux urgences. Elle prie de son côté, avec les enfants, il y a quelque chose qui se met en route dans la prière. Il y a quelque chose qui se met en route, et là je suis dans cette phase où je demande, au nom de Jésus, Seigneur, je ne veux pas être opéré, Seigneur, il faut absolument que cette blessure, elle ne produise aucune conséquence négative. Et je prie, et je prie, et je prie. En même temps, donc, le médecin ou les infirmières m'amènent au scanner. Je suis un peu claustro, les scanners, je ne sais pas si vous en avez fait, sans doute. C'est pas terrible, hein, quand on rentre dans l'espèce de tunnel, là, avec mon bras comme ça, et je ne suis pas bien. En fait, si, je suis super bien, je commence à éclater de rire. Je commence à entrer dans une joie, mais un truc de fou. J'éclate de rire, quand je vous disais que c'est une joie visible, c'est ça. C'est la joie visible du Seigneur qui est en train de répondre à ma prière, qui est en train de me donner. Il m'a dit, vous recevrez, pour que votre joie soit complète. Et bien là, je peux vous dire que ma joie était complète, parce que je savais que le Seigneur était en train d'agir. Il était en train de remettre les os en place. Ça ne m'était jamais arrivé, mais depuis. Mais en tout cas, c'est une expérience qui est extraordinaire, parce qu'en plus, elle permet de témoigner derrière. Parce qu'évidemment, je sors du scanner, le médecin, il vient me chercher. Il vient me chercher et puis il regarde son ordi, là, je vois donc les clichés qu'il est en train de voir, puis je vois qu'il commence à froncer les sourcils comme ça, en manipulant sa souris. Il me dit, en portugais, je ne vais pas vous le faire en portugais, mais... O senhor tem sorte, si je vous le fais quand même, pour le point. Non, o senhor é dia de sorte, c'est votre jour de chance. comment vous dire? Non. La palabra sorte non est no meu vocabulario. Eu tenho Deus, eu rezei ao meu Deus e o meu Deus fez o que tinha a fazer. J'ai un Dieu, j'ai prié mon Dieu, et c'est lui qui a réparé. Et c'est lui qui a réparé. Donc non, c'est pas de la chance. Et il me dit... Alors, je ne sais pas si c'est un dieu ou si c'est des saints, mais en tout cas, vous pouvez repartir tranquille. Je vous laisse le plâtre, vous vous faites observer quand vous rentrerez en France, et puis tout va bien. Alléluia, merci Seigneur pour cette joie que tu m'as donnée, pour ce miracle. Mais c'est pour illustrer ça. C'est que quand on demande, on reçoit. Et le Seigneur nous remercie avec de la joie. Une joie que nul ne peut ôter. Parce que ça, c'est la promesse ferme de Jésus. Jésus, il le promet. Verset 22, du coup. Ça, c'est le 21. C'est le 24. On revient sur le 22. Nul ne vous ôtera votre joie. C'est une promesse extraordinaire parce que la joie du monde, elle peut être volée. Mais la joie en Christ, elle est indestructible. Nul ne peut l'enlever. C'est une joie qui est enracinée dans une œuvre. C'est l'œuvre de la croix, où il a porté toutes nos maladies, toutes nos meurtrissures, tout. Il a tout porté. Et personne ne peut effacer la croix. Personne ne peut remettre Jésus au tombeau. Personne. La joie, c'est pour ça qu'on doit être joyeux. C'est pour ça que malgré les circonstances, on doit être joyeux. Parce que oui, personne ne peut remettre Jésus au tombeau. C'est pas possible. C'est une victoire qui est définitive. Elle est définitive. Il n'y a plus rien qui peut nous atteindre. Plus rien. Alors c'est une puissance spirituelle, la joie. C'est une puissance spirituelle. Dans Romains, c'est l'apôtre Paul qui dit que dans Romains 8, versets 38-39, je ne sais plus si je l'ai mis, celui-ci. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n'y a rien, rien. Cette joie, c'est plus qu'un sentiment, c'est une force intérieure. C'est une force intérieure qui va nous mettre et qui va nous rendre inébranlables, vainqueurs et plus que vainqueurs. Et même quand on est dans la difficulté, il y a un exemple merveilleux dans la Bible. Silas et Paul, quand ils sont en prison, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Imaginez, Paul et Silas, ils sont en prison, ils sont enchaînés, ils sont battus. Ils doivent vivre un vrai calvaire et pourtant ils chantent. Ils chantent les louanges de Dieu, ils sont joyeux. Ils choisissent de chanter, ils choisissent de louer. Puis témoignent en même temps. Imaginez, vous êtes dans la difficulté, vous êtes dans le dur, vous vivez des épreuves incroyablement dures. Et là, vous êtes dans la joie, vous louez, vous bénissez votre Seigneur. Et là, il y a des gens qui vous entendent, les prisonniers. Résultat, Paul et Silas, tremblement de terre, les portes s'ouvrent. Il y a un geôlier qui se convertit. Et toute la famille. La joie, c'est devenu une arme spirituelle. Et ça a fait éclater, finalement, la puissance de Dieu dans ces ténèbres. Donc la joie, c'est vraiment cette marque du royaume de Dieu. On l'a dit tout à l'heure dans Romains, le royaume de Dieu, ce n'est pas le boire et le manger, la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc la joie, c'est vraiment cette signature du royaume. On est des citoyens du royaume, on est des ambassadeurs du royaume. Donc la joie, elle devrait nous habiter quotidiennement. C'est la signature de Dieu. Puis c'est aussi un fruit de l'esprit. C'est surtout un fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, etc. Et donc la vraie joie, elle n'est pas produite par nos efforts. Même si on doit faire des pas de foi pour entrer, cultiver cette joie, c'est avant tout le fruit de la vie de l'esprit en nous. Si l'esprit ne vit pas en nous, c'est compliqué. Donc il faut contacter Dieu sans cesse. Il faut contacter Dieu sans cesse, il faut demander sans cesse. Seigneur, donne-moi la joie, Seigneur, fais mûrir en moi ce fruit pour que je puisse en manger et que je puisse donner à manger aux autres aussi. Donc c'est un fruit et c'est une puissance spirituelle. Parce que cette joie, elle nous rend fort, elle nous rend beaucoup plus résistants. La joie de l'Éternel sera votre force, dit Néhémie. La joie de l'Éternel sera votre force. Et puis c'est cette arme contre l'ennemi. Parce que l'ennemi, il veut quoi, lui? Il veut voler, il veut tuer, il veut égorger, il veut détruire. Et comment il fait ça? Il ne met pas des démons en tout le monde. Hein. C'est beaucoup plus subtil. Il attaque. Subitement, sournoisement, il met la peur, il met la tristesse, il met les épreuves. Oui, le découragement, décourage. Mais la joie en Christ, c'est une arme. Parce que quand on choisit de nous réjouir dans le Seigneur, eh ben on brise les stratégies de l'ennemi. On les brise. Philippiens 4:4, Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est le « en vérité » de Jésus. Il répète, Paul. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est un acte de résistance spirituelle. Réjouissez-vous. Parce que oui, le voleur, eh ben lui, il est venu pour dérober, pour égorger, pour détruire, mais Jésus, il est venu pour quoi? Je suis venu afin que les brebis, elles aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Abondance de joie dans nos vies, les amis. Abondance de joie. Et je me le dis à moi en premier. Je suis le premier à ne pas en faire preuve. Quand vous êtes assailli par votre quotidien, que le boulot il vous attrape, il vous pressurise, que vous êtes sollicité de toutes parts. Le boulot, la famille, la vie d'église, c'est pas une partie de plaisir souvent. Mais je dois me rappeler constamment la croix et la résurrection. Chaque fois que je contemple ce que Jésus a fait, mon cœur il doit s'enflammer, je dois être reconnaissant et je dois me réjouir intérieurement. Non, ces épreuves, elles ne sont rien. Moi, la joie, elle m'appartient. Et je ne laisserai pas la tristesse et la pression m'envahir. C'est un combat, mais on va le gagner. Parce que On doit vivre et on vit dans cette communion avec le Saint-Esprit. C'est lui qui produit la joie en moi. Vraiment, les temps de prière sont tellement importants pour vivre dans la communion avec le Seigneur. C'est tellement important aussi d'être dans la gratitude, de le louer sans cesse dans toutes les circonstances. La louange, et on chantera tout à l'heure un dernier chant, la louange, ça déplace nos regards. Nos regards, ils se déplacent de ce qui est négatif, et ils voient la grandeur de Dieu. Et puis c'est important pour notre vie d'église d'être joyeux. Parce que je crois qu'une église joyeuse, elle peut devenir contagieuse. Je pense qu'une église où la joie n'est pas vécue, ce n'est pas une église qui va attirer. Hein. On a eu la grâce avec Gabi il y a un an et demi d'aller en Côte d'Ivoire où on a vécu des temps de joie dans les cultes qui étaient incroyables. Incroyables. J'avais jamais vécu ça. J'ai d'ailleurs jamais revécu ça. Mais cette joie qui inonde le peuple de Dieu, elle est communicative. Elle est communicative. Et on est tellement dans la joie de louer le Seigneur, de le connaître, qu'on en parle facilement à l'extérieur et que le dimanche d'après, 3-4 nouveaux qui viennent à l'église, qui découvrent et qui, par la grâce du Seigneur, sont convertis. Vivent dans la joie du royaume. Oui, on ne peut pas nier, j'en termine, on ne peut pas nier que la tristesse, elle est là. Jésus ne nous l'a pas cachée. Mais cette tristesse, même si elle est réelle, elle n'est pas la fin. Elle n'est pas la fin. Parce qu'il y a une source de la joie, c'est la croix et c'est la résurrection. Qu'on reste sur ça, c'est que la source de la joie, c'est la croix et c'est la résurrection. C'est Christ qui vit en nous. C'est le salut qu'il nous a accordé. Et cette joie, elle est indestructible. On ne peut pas nous l'ôter. Frères et sœurs, on ne doit pas accepter de vivre comme si on était encore comme les apôtres après la crucifixion, abattus. On ne doit pas rester au Vendredi Saint. On doit rester au dimanche de Pâques. On doit rester dans cet état d'esprit que nul ne peut nous ôter notre joie, que cette joie, elle est réelle. Alors on doit la proclamer et puis on doit la partager. C'est un sacré défi. Mais on va prier le Seigneur pour qu'il puisse nous accorder cette grâce, pour qu'il puisse vraiment nous encourager dans notre quotidien. Alors Seigneur, je veux te bénir. Je veux te bénir. J'appelle le groupe de louange si vous voulez aussi reprendre place, s'il vous plaît. Je veux te bénir, Seigneur. Je veux élever ton saint nom. Je veux être reconnaissant, Seigneur. Je veux être reconnaissant ce matin parce que, Père, en Jésus-Christ, tu as changé notre tristesse en joie. Tu as changé notre tristesse en allégresse, Seigneur. Tu as changé nos pleurs en rire. Seigneur, tu as changé nos chaînes en liberté, Seigneur. Tu nous as donné cette liberté. Seigneur, merci. Merci parce qu'à la croix, tu as porté nos fardeaux. Seigneur, merci parce que tu as porté nos péchés, tu as porté nos douleurs. Seigneur, par ta résurrection, tu nous as donné cette joie nouvelle, Seigneur. Tu nous as donné une joie que personne ne peut nous enlever, personne ne peut ôter. Seigneur, nous confessons que trop souvent, Seigneur, nous nous complaisons dans la tristesse parfois. Seigneur, nous laissons les soucis de ce monde parfois nous voler notre joie. Seigneur, nous laissons parfois la peur, nous laissons parfois le découragement prendre le pas. Nous laissons, Seigneur, la fatigue assombrir nos cœurs. Mais aujourd'hui, Seigneur, on veut se lever dans la foi. On veut se lever dans la foi et on veut déclarer que la joie de l'Éternel est notre force. On veut le déclarer. Saint-Esprit, viens remplir ton peuple de joie, Seigneur, maintenant. Viens remplir ton peuple. Déverse une onction de joie, Seigneur, sur chacun. Viens renouveler les cœurs, Seigneur. Viens briser les fardeaux. Viens chasser les esprits de lourdeur. Revêt-nous, Seigneur. Revêt-nous d'un vêtement de louange, Seigneur. Fais jaillir la joie. Fais jaillir des fleuves d'eau pure, d'eau claire, d'eau vive. Fais éclater des chants de victoire, Seigneur, dans cette assemblée. Fais éclater des chants de victoire, Seigneur. Des chants de joie. Et au nom de Jésus, prenons autorité. Prenons autorité et rejetons toute tristesse qui oppresse les âmes ce matin dans cette assemblée. Nous brisons tout esprit de lourdeur et de découragement. Nous brisons ces choses dans le nom de Jésus. Nous proclamons la liberté, nous proclamons la joie du royaume de Dieu parmi nous. Ne laissons pas l'ennemi abattre ses cartes. Nous avons tous les atouts en main et c'est la joie du Seigneur en nous. La joie de Jésus qui coule comme un fleuve dans nos vies, dans nos familles, dans nos cœurs. Ta joie, Seigneur, ta paix. Ta joie, Seigneur, ta paix. Plus de chaînes, Seigneur, plus de peur, plus de mensonges de l'ennemi. On est dans la victoire. On est vainqueur et plus que vainqueur. Et on est dans la joie. Jésus est vivant, alors on est dans la joie et on va chanter ce chant. Je suis dans la joie.
Nous sommes dans la joie.
Je suis dans la joie.
Amen, amen, amen,
une
amen,
joie
amen,
immense.
Amen.
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré.